Stéphanie.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
7h sur Europe 1. Oui.
La matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneau.
Le monument est un véritable chef-d'œuvre de restauration. Il y a là une unité paysagère, architecturale et urbaine qui mérite qu'on la maintienne en l'état.
À l'issue des travaux, on va donc retrouver Notre-Dame exactement comme elle était avant l'incendie. Emmanuel Macron a tranché, la cathédrale sera reconstruite à l'identique. Safran, premier groupe français, a signé un accord de chômage partiel de longue durée. Plusieurs milliers d'emplois seront ainsi sauvegardés.
On préfère que tout le monde fasse un effort un an plutôt que 30 000 traversent la crise et que 12 000 restent au pas de la porte.
L'emploi enjeu prioritaire pour les partenaires sociaux qui ont défilé hier dans le bureau de Jean Castex. Ils considèrent que la réforme des retraites peut attendre. Dans un contexte de recrudescence de l'épidémie, 5 millions d'Australiens à nouveau confinés, les habitants de Melbourne, la deuxième ville du pays.
Comme le déconfinement n'a pas marché totalement la première fois, forcément les mesures vont être plus drastiques la deuxième fois.
Et puis le PSG et Lyon sauront ce matin à quelle sauce ils vont être mangés. Tirage au sort du tournoi à 8 de la Ligue des Champions. Votre invité à 7h40, Pierre.
Il s'appelle Nicolas Chaban, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il est architecte, mais pas seulement, parce que dans son agence d'architecture, il y a aussi des experts et des ingénieurs. Il nous parlera du Center Parcs de Roibon, de ce projet avorté, et du nouveau paradigme de l'architecture en cette prise de conscience écologique. Il est 7h02. Bienvenue sur Europe 1.
Le journal est présenté par Hélène Zélani et Pierre de Villeneau.
C'était un peu la querelle des modernes et des anciens, de ceux qui prenaient une évolution de Notre-Dame contre ceux qui voulaient la retrouver exactement comme avant. Et bien finalement, 15 mois après l'incendie, on sait que la cathédrale sera reconstruite à l'identique. Emmanuel Macron a pris sa décision après avoir entendu les experts de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, Jean-Jacques Héry.
Dès le départ, c'était le projet de l'architecte en chef Philippe Villeneuve, rester fidèle à la silhouette gothique de Notre-Dame de Paris et à sa flèche emblématique, la reconstruire telle qu'elle apparaissait sur l'île de la Cité depuis le 19e siècle et la restauration du monument par Eugène Viollet-le-Duc. Hier, Philippe Villeneuve a donc présenté aux membres de la Commission nationale du patrimoine un dossier de 3000 pages pour défendre ses idées, un projet approuvé à l'unanimité par la Commission, comme l'explique le sénateur Jean-Pierre Leleu, son président.
Le monument est un véritable chef-d'œuvre de restauration. Il y a là une unité paysagère, architecturale et urbaine qui mérite qu'on la maintienne en l'état. Même les matériaux ont été recommandés pour être identiques. Le bois pour la charpente, le plomb pour la couverture et évidemment la reconstitution de la flèche à l'identique.
Une flèche classique dont la reconstruction ne donnera pas lieu à un concours d'architecture. Cela aurait pu entraîner un nouveau retard dans les travaux après celui engendré par la crise du coronavirus. Pour l'instant, l'Élysée peut donc continuer de tabler sur 5 années de chantier et une rouverture en 2024.
Et à 8h, nous appellerons Monseigneur Chauvet, le recteur de Notre-Dame de Paris. Pour la première fois en France, Hélène Zélani, un groupe industriel va mettre en place le chômage partiel de longue durée. Il s'agit de l'équipementier aéronautique Safran, très affecté par la crise.
Et oui, certains salariés auront un temps de travail réduit de 40%, mais grâce à la compensation de l'État, ils toucheront la quasi-totalité de leur salaire net et il n'y aura aucun licenciement dans les 18 prochains mois. Accord salué par tous les syndicats. Aurélien Fleureau.
Très rapidement, on s'est rendu compte que nous avions une baisse de charge de 40%, et ce qui pouvait correspondre à éventuellement jusqu'à 12 000 postes en trop dans le groupe.
Passer de 12 000 emplois menacés à 3 000 départs anticipés à la retraite et 6 000 salariés concernés par l'activité partielle longue durée, sentiment du devoir accompli pour Daniel Barbereau, coordinateur force ouvrière au sein du groupe Safran.
C'est une première en France, oui. On est la première société à avoir négocié cet accord. On préfère que tout le monde fasse un effort un an plutôt que 30 000 traversent la crise et que 12 000 restent au pas de la porte. Nous avons négocié un accord pour permettre aux personnes qui avaient l'âge de départ en retraite de partir par des mesures incitatives.
L'accord garantit entre 90 et 93% du salaire net aux 6 000 personnes en activité partielle longue durée. Côté direction, des concessions ont aussi été réalisées. Pas de dividendes en 2020. Moins que d'habitude, c'est une promesse en 2021. Et les embauches ne seront pas gelées. 300 jeunes diplômés et environ 400 apprentis vont intégrer Safran, où tout le monde espère une reprise de l'activité aéronautique d'ici 2 à 3 ans maximum.
L'emploi avant tout, c'est le message que les partenaires sociaux ont voulu faire passer à Jean Castex, Grasse qui les a reçus toute la journée à Matignon. Syndicats ou patronat, tous sont sur la même longueur d'onde. Ils ne veulent pas entendre parler de la question des retraites dans les prochains mois.
Ces rencontres qui vont se poursuivre aujourd'hui en présence de la nouvelle ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui sera notre invitée tout à l'heure à 8h15.
Les ministres sont déjà à pied d'œuvre, on l'a vu. En revanche, une dizaine de secrétaires d'État doivent être nommés dans les jours qui viennent. L'attente se prolonge pour ceux qui étaient déjà en poste et ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir, et pour tous ceux qui espèrent être appelés. Adrien Beck.
Pour eux, le supplice n'en finit pas. Ils étaient secrétaires d'État au numérique, aux personnes handicapées, aux retraites. Les voilà dans l'incertitude la plus totale. Ma voiture de fonction m'a ramené chez moi avec mes cartons, puis plus rien, raconte un sortant. Depuis, tous essaient de passer le temps sans trop s'éloigner de leur téléphone. Aucun indice n'a filtré, ni sur une reconduction, ni sur une éviction. C'est pas le genre de la maison, sourit un ministre. Et l'attente pourrait encore durer une semaine, le temps pour Emmanuel Macron et Jean Castex de définir les nouveaux périmètres des secrétariats d'État. On évoque par exemple plusieurs nouveaux postes au ministère de l'écologie, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde, en plus des sortants, des éventuels débauchages. Une bonne vingtaine de députés de la majorité espèrent intégrer le gouvernement. Alors forcément, il y aura des déçus chez les marcheurs, raison pour laquelle, croit savoir un conseiller, les secrétaires d'État ne seront nommés qu'après le discours de politique générale de Jean Castex.
Un discours qui devrait intervenir le 15 juillet prochain.
En tout cas, les nominations de deux ministres au gouvernement continuent à faire des vagues, en tout cas chez les féministes, qui n'apprécient pas que Gérald Darmanin, accusé de viol, ait été nommé à l'intérieur, ni qu'Éric Dupond-Moretti, critique envers le mouvement MeToo, soit devenu garde des Sceaux.
Eh oui, plusieurs associations appellent donc à des rassemblements dans toute la France, à Paris, Marseille, Toulouse, Rennes, ou encore à Lille, où Blandine, membre du collectif Nous Toutes, a bien l'intention de manifester sur la Grand Place en fin de journée.
On attend beaucoup de monde pour manifester notre colère et notre stupéfaction face à ce nouveau gouvernement. La ville de Tourcoing, où M. Darmanin a été réélu au premier tour en tant que maire, c'est juste à côté de chez nous, on a déjà stupéfait. Ensuite, le voir nommé à l'intérieur, il est accusé de viol, c'est un message terrible qui est envoyé. Moi, j'étais vraiment en colère. Et M. Dupond-Moretti, il est le premier à revendiquer des slogans antiféministes, à pointer du doigt les femmes qui ont parlé après MeToo. Et c'est lui qui va être à la tête de la justice française. C'est vraiment la colère. La colère.
La colère d'une militante du collectif féministe Nous Toutes. Sexisme entre soi, opacité. Après le déluge de critiques, l'Académie des Césars décide de se renouveler. La présidence sera désormais assurée par un tandem homme-femme. Une stricte parité sera aussi respectée dans toutes les instances de l'association.
Europe 1, il est 7h08.
Il faut agir vite. C'est la conclusion du rapport sénatorial sur la radicalisation islamiste qui a été publié hier. Et il propose une quarantaine de mesures face à une menace qui plane sur certains quartiers.
Des comportements certes minoritaires, mais en rupture avec les valeurs républicaines, Salomé Legrand.
Oui, le phénomène touche toute la France, sauf l'Ouest, notent les sénateurs qui s'inquiètent, sans pouvoir la quantifier précisément, de la diffusion de ces comportements qui remettent en cause le vivre ensemble. Un séparatisme qui tente de prendre le contrôle de l'islam en France et qui se traduit par la constitution dans certains quartiers d'écosystèmes islamistes avec toutes sortes de commerces halal et une propagande qui fait du religieux l'unique mode de rapport aux autres. Le tout en contradiction avec les valeurs de la République, à commencer par la liberté de conscience et l'égalité homme-femme. Le rapport prescrit 44 mesures, parmi elles le rétablissement de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, le prononcé d'interdiction administrative de territoire, notamment à l'encontre des idéologues des frères musulmans, le renforcement des moyens humains du renseignement territorial ou encore une meilleure formation des élus locaux à ces questions avec la désignation de correspondants laïcité au sein des préfectures.
Salomé Legrand, réaction de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Le constat a déjà été fait, il est urgent de passer des rapports aux actes.
C'est une menace qui plane sur de nombreux pays, le reconfinement. Et c'est désormais le cas pour les 5 millions d'habitants de Melbourne en Australie. On en parle dans la suite du journal, à tout de suite.
Europe 1, il est 7h10, la suite du journal. Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve.
En France, l'hypothèse d'un reconfinement généralisé est pour l'instant exclue, même si on parle de plus en plus d'une deuxième vague et d'un relâchement de la population.
Et à l'autre bout du monde, en Australie, ce sont 5 millions d'habitants de Melbourne, la deuxième ville du pays, qui se retrouvent à nouveau confinés. Ça va durer au minimum 6 semaines. Ils ne peuvent sortir que pour des raisons professionnelles, pour faire des courses de première nécessité, pour aller chez le médecin ou encore pour faire du sport. Une situation particulièrement difficile à vivre. Pauline Jacquot.
Numéro vert mis en place par le gouvernement, campagne de sensibilisation, les autorités multiplient les messages de prévention. Vigilance extrême, puisqu'à Melbourne, les habitants n'ont jamais été vraiment déconfinés depuis 5 mois. 5 mois de règles, plus ou moins strictes, de listes d'interdictions très précises, qui changent aussi très souvent. Après avoir retrouvé un peu de liberté, hier, en plein hiver, Melbourne a repris ses allures de ville fantôme. On replonge et ça risque d'être encore pire que la première fois, souffle Nathanaël, qui s'est installé à Melbourne il y a 3 ans avec sa famille.
Comme le déconfinement n'a pas marché totalement la première fois, forcément les mesures vont être plus drastiques la deuxième fois. Donc le gros coup dur, c'est qu'on est aussi dans l'incertitude de ce qui va se passer pour les enfants, pour ce deuxième reconfinement. Il n'y a encore pas de visibilité. La seule chose qui a été faite, c'est que la semaine prochaine, alors qu'on devait rentrer à l'école, les vacances scolaires allaient être prorogées le temps que justement les installations de thermomètres, de checking, d'installations de savon, etc. se mettent en place.
Signe de fébrilité de la population, les rayons des supermarchés ont été dévalisés le jour de l'annonce du reconfinement.
Le cap des 12 millions de cas déclarés dans le monde vient d'être franchi, dont plus de la moitié aux États-Unis. Nous ne pourrons pas vaincre la pandémie si nous sommes divisés, déclaration du directeur de l'OMS.
Allez, on revient en France avec l'un des maîtres mots en ce moment. L'écologie, transport, agriculture, passoires énergétiques, mais l'industrie est évidemment particulièrement concernée.
Oui, le secteur représente 20% de nos émissions de CO2, à peu près autant que l'agriculture ou le bâtiment. Un plan de transition écologique très encadré est lancé avec l'aide de l'État, comme nous l'explique Virginie Salmen.
Nous allons ouvrir le capot et proposer des plans secteur par secteur, chimie, acier, ciment, plastique, voilà la mission de l'Agence de transition écologique, l'ADEME, pour l'année qui vient. L'industrie fournit les matières premières de tous les produits de notre vie quotidienne, vêtements, médicaments, bâtiments. Notre mission en tant que citoyen, c'est de consommer ces produits plus raisonnablement. De leur côté, les industriels s'engagent dans un processus de production plus propre. Il y a d'abord des solutions techniques. Le directeur général délégué de l'ADEME, Fabrice Boissier.
Un exemple, quand on fabrique de l'acier, on utilise du charbon. Pour transformer le minerai de fer en acier, on est en train de travailler, les industriels sont en train de travailler pour essayer de remplacer ce charbon par de l'hydrogène. Et comme ça, on émettrait beaucoup moins de gaz à effet de serre.
Et puis, on parle aussi d'économie circulaire dans l'industrie. Par exemple, pour le ciment, grand émetteur de CO2, les industriels pourraient utiliser plus de béton recyclé au lieu d'aller chercher du ciment vierge et du granulé vierge. L'objectif, c'est qu'avec des économies d'énergie, du recyclage et une consommation moins frénétique, d'ici 2 ans, les 9 secteurs les plus énergivores aient un plan de transition en ordre de marche.
Virginie Salmen.
Le foot avec un tirage au sort très attendu, Hélène. Ce matin en Suisse, au siège de l'UEFA.
Oui, celui du Final 8, le tournoi à 8 clubs de la Ligue des Champions. Les 2 représentants français, le PSG et Lyon, connaîtront leurs adversaires pour cette compétition inédite. Axel May.
Drôle de tirage au sort à venir. Seule la moitié des équipes qualifiées pour les quarts de finale sont connues, le PSG, Leipzig, Bergame et l'Atlético Madrid. Les autres clubs doivent disputer leur 8e de finale retour dans 1 mois. Lyon, en ballotage favorable après sa victoire au match aller en mars contre la Juventus, tentera de valider à Turin sa qualification. Le Bayern, le Barça, le Real ou encore Manchester City frappent aussi à la porte des quarts. Bref, c'est un tirage au sort à trous qui va avoir lieu, mais il permettra déjà de savoir si par exemple le PSG, porté par l'argent du Qatar, a enfin une chance de conquérir le Graal européen. Car dans ce format inédit, les matchs seront à élimination directe. Autrement dit, avec un quart de finale favorable, Paris aurait presque un pied en demi. Tous ces matchs, à 8 clos, sont censés se tenir entre le 12 et le 23 août à Lisbonne, ville qui s'est en partie reconfinée.
Et puis selon les informations d'Europe 1, la vente de l'OM, ça avance. Le projet de l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi est bouclé, prêt à être soumis à l'actuel propriétaire du club qui, officiellement, n'est toujours pas vendeur.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani qu'on retrouve tout à l'heure à 8h.
Europe 1. Votre rendez-vous santé dans un instant avec les bonnes pratiques à adopter pour éviter les accidents de vélo, de trottinette. Nous serons avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et bien sûr, l'édito éco de Carole Ferry zoom sur la consommation des ménages au secours des budgets de l'État. Tout de suite.